Sneakerhead. Ah, bah, ok, je vois. Bah oui, je pense que c'est un peu la culture street, le fait d'avoir aussi le dernier modèle, enfin, suivre la tendance, Adidas qui sont sortis, la collaboration avec, là. C'est un peu ça, c'est un peu ça, et chacun a ses trucs, quoi.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Zoom Zoom Zen chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses tendances et parfois, comme aujourd'hui, un mot qui traduit une tendance. Zoom cet après-midi sur les fous de basket, qui d'ailleurs n'appellent pas ça des baskets mais des sneakers, les sneakerheads. Et pour les comprendre, je vous propose d'en rencontrer un pionnier, moi. Nous sommes le 14 novembre 1989 dans la cour de l'école primaire de Ferney-Voltaire dans l'Ain, où il y a 2 jours, Pierre-Yves Barbotin s'était moqué de mes bottines Jacadi, disant, je cite, que j'étais un gros tocard. Le tout sous les yeux de Sophie Chassagneux, la plus belle fille de CE2, à qui il aurait prétendument déjà fait un smack derrière la cantine. Je n'y ai jamais cru. D'autant qu'en ce 14 novembre, la donne a changé. Ce matin-là, je n'arrive pas à l'école avec mes bottines Jacadi. La veille, le 13, c'était mon anniversaire et mon père m'a rapporté des États-Unis les nouvelles Reebok Pump. Je suis le premier enfant de l'Ain et peut-être même de toute la région Rhône-Alpes à les avoir. Alors quand cette enflure de Pierre-Yves Barbotin s'approche de Sophie Chassagneux, cette fois je me baisse, je gonfle mes pumps comme le vainqueur du concours de la NBA cette année-là, du concours de dunk. Sophie Chassagneux comprend que je ne suis plus le même homme. Barbotin, avec ses pauvres Jordan 2, n'a plus que ses yeux pour pleurer. Voilà, en une anecdote quasiment 100% véridique, encapsuler tout l'esprit des sneakerheads, cette obsession qui pousse à chercher toujours soit le modèle que tout le monde veut, soit au contraire le modèle que personne n'a, comme ces Blazers que j'ai fait customiser, exprès, effectivement avec des lacets roses, trempage dans le café pour un effet mocha.
Vous avez cassé le studio.
Le tout pour un prix. Enfin, je vous dis pas le prix, vous inquiétez pas, je l'ai acheté à l'époque où j'étais sur Europe 1. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen.
Cette ordure de la carrière veut dire quelque chose.
Oui, il y a une petite coulisse à raconter. Mathieu vient de faire un geste en jetant sa jambe gauche sur la table. Ce matin, quand on était tous les deux dans le bureau, il a vérifié qu'il arrivait bien à mettre sa jambe sur le bureau. Il m'a dit, je suis pas assez souple.
Il y a encore un peu de travail. Ouais, ouais.
Hein. C'est pas ça, c'est que je dois en même temps lire. Je suis incapable de retenir ce que j'écris, donc je dois en même temps lire la feuille et avoir le pied pas trop loin. Ça est compliqué.
Papy Noël.
Tout ça pour montrer des lacets roses. Mais bon,
oui, mais oui. Ouais. Bonjour Pierre Demoux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous cet après-midi. Vous êtes Pierre, journaliste spécialisé dans le sport business pour le journal Les Échos, et vous avez écrit il y a quelques années le livre de référence des sneakerheads, l'Odyssée des sneakers, comment les baskets ont marché sur le monde, aux éditions La Tango, livre réédité en octobre dernier tant le monde de la basket évolue tout le temps, une mode mais aussi un vrai business qui représenterait 100 milliards d'euros à travers le monde. Vous allez tout nous expliquer. En matière de sneakers, certains savent déjà beaucoup de choses, baignent dans cette culture depuis leur enfance, pour d'autres en revanche c'est plus compliqué. Souvenez-vous, cette séquence magnifique pour ceux qui ne l'auraient jamais entendue, c'est pas Valérie Le Mercier jouant Béatrice de Montmirail dans Les Visiteurs, c'est Amélie Oudéa-Castéra, alors ministre de l'Éducation nationale, qui rencontre des collégiens et remarque à un détail qu'elle a affaire à des sportifs.
Moi, je remarque que 3 d'entre vous ont des baskets. Vous en avez profité un peu pour bouger dans la cour de récré.
Pour bouger dans la cour de récré. Non, madame la ministre, les sneakerheads le savent depuis 1975 environ. On peut mettre des baskets sans forcément pratiquer une activité sportive. La preuve, Manon, Marianne et Quentin, lui, portent des baskets. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de sport. C'est
cette année, vous
avez... Parlez pour vous.
Hein. Ah oui, c'est vrai que Manon, vous avez repris un peu.
Oui, oui.
Cuisse
abdos fessiers tous les mardis.
Pardon ?
Cuisse abdos fessiers tous les mardis.
Cuisse abdos fessiers, la sainte trinité du sport. Manon, chaque après-midi, vous nous indiquez l'autre personne à suivre sur notre sujet du jour.
Oui, une tiktokeuse française sneaker addict qui a réussi à se faire un nom dans un milieu assez masculin.
Face à vous, Pierre, lui, à l'époque où j'épatais Pierre-Yves Barbotin avec mes Reebok Pump, il portait encore des chaussettes de naissance, petit bateau, qu'il a d'ailleurs porté jusqu'à l'âge de 8 ans. Quentin, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème.
On était économes dans la famille, mais par contre, j'ai eu des requins, les Air Max Plus, toutes noires. Ma mère n'avait pas compris, elles m'ont quand même fait toute l'année de la 6e. Dans la rue, j'ai arrêté les gens en fonction de leur basket, justement. Leurs sneakers. Est-ce que le phénomène touche tout le monde, toutes les générations ? Vos réactions dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, espérons que le ridicule ne tue pas, puisque Manon, Quentin, vous devrez, sous le regard du plus grand spécialiste français des sneakers, répondre à mes questions sur l'histoire des baskets.
Oula.
Que signifie ASICS ? Comment aurait dû s'appeler Nike ? Oula. Normalement, quel est le lien entre Puma et Adidas ? Réponse dans le Zoom Zoom Test. Juste avant 17h, c'est Gigi Pop, le sosie blanc de Tony Parker, qui nous rejoindra. Je maintiens mes accusations.
Non,
mais d'abord, Pierre de Mamou, quand on s'intéresse au basket, on a forcément un modèle fétiche. C'est lequel le vôtre?
Alors c'est celui que je porte, je ne sais pas si je peux le citer.
Vous pouvez tout citer, j'ai déjà montré mes Nike, alors allez-y.
Bon, c'est des Stan Smith Homer Simpson.
Homer Simpson.
Qui m'ont été offerts par ma femme. Et voilà,
qu'est-ce qu'elles ont de particulier?
Il y a le petit Homer derrière,
oui, c'est ça?
Ah, il est derrière.
Même, vous pouvez le décrire?
Alors c'est le même où Homer Simpson rentre dans la haie pour se cacher. Et j'utilise beaucoup ce même dans les conversations. Donc,
oh, c'est mignon. En plus, c'est mignon. Et puis, c'est un hommage à votre femme. Lui, son modèle fétiche, c'est la Mephisto Confort 2000. Surtout depuis que son podologue lui a prescrit une semelle orthopédique, il ne marche plus, il trotte, il galope. Bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Alors Cyril, c'est-à-dire que vous vous désolidarisez de la direction pour vous rapprocher de Cyril Lacarrière. C'est un mauvais move pour l'année prochaine.
C'est aussi la direction.
Alors, non, c'est pas la direction. Il n'y a qu'une seule direction dans cette émission. Cyril, rassurez-nous. Vous êtes en fait un vrai fan de sneakers. Vous avez beaucoup de paires de baskets, j'ai l'impression. Vous en changez très fréquemment.
Quelques-unes.
Certains modèles très onéreux.
Peu importe.
Certains modèles pas très beaux non plus.
C'est ça qui compromet la saison prochaine.
Les deux sont compromis pour la saison prochaine.
Ouais.
C'est terrible. Cette émission du vendredi, il y a un relâchement.
Vous serez tous les deux. Très bien.
Alors, Cyril, racontez-nous.
Je suis disponible si vous voulez.
Pierre, vous êtes engagé. Les deux d'un coup. Tout va très vite. Le mercato est déjà lancé. Le mercato média. Sneakerhead, Cyril, d'où ça sort?
Eh bien, c'est à la fin des années 70 qu'on a commencé à collectionner les baskets, les sneakers. Mais tiens, savez-vous pourquoi des sneakers s'appellent des sneakers? Eh bien, à cause de leur semelle en caoutchouc. Des semelles qui permettent de marcher sans faire de bruit, de se faufiler. Et comment on dit faufiler en anglais? Sneak. Alors qu'avec des souliers, vous faites du bruit. Encore plus quand on porte des paraboutes à 590 euros. Pas vrai, mon bon Noël.
Je les ai achetés sur Vinted. Une bouchée de pain.
C'est carrément le bruit des lingots qu'on entend sur le parquet. Mais bref. Fin des années 70, donc, pour les prémices des collectionneurs. Mais la vraie bascule, c'est au milieu des années 80. Le 1er avril 1985, pour être exact. La toute première Air Jordan apparaît dans les magasins. Elle coûte seulement 65 $. Alors, ça ferait quand même 200 $ aujourd'hui. Un prix élevé. Et pourtant, c'est l'émeute. Résultat, Nike fait grimper les prix. 100 $. Mais il n'empêche, 60 000 paires de ces Air Jordan 1 sont vendues lors des premiers mois.
Mais collectionner des baskets, ça va de pair quand même avec une certaine culture.
Celle du hip-hop, bien sûr. 1986, Run DMC sort ça. Adidas, un morceau qui sert de signe de ralliement. Dans la culture hip-hop, les baskets deviennent un signe d'appartenance. On n'achète plus des baskets pour faire du sport, mais parce que c'est stylé. Et c'est comme ça qu'au fil des années, on en vient à traquer tout ce qui sort, toutes les éditions limitées, qu'on en vient à payer des fortunes pour se payer une paire spéciale, que ça devienne même un objet rare, et qu'au fil du temps, ces collectionneurs héritent d'un petit surnom, sneakerhead. Alors, quand est-ce qu'on devient un sneakerhead, ou quand est-ce qu'on devient déraisonnable? Pourquoi la basket fait cet effet-là? Jusqu'où les marques peuvent-elles aller pour faire grimper les prix? Est-ce que le marché, lui, est en train de se tasser? Mais c'est ce qu'on va voir durant une heure.
Merci, Estyrix.
Hop.
Oui, c'est...
Ah, pardon.
Hip-hop.
Je me suis moqué de moi.
Comme Mathieu.
Ah, vous avez dit le hip-hop?
Oui, comme
mais
vous.
Je vous influence tellement, Cyril, c'est dramatique.
C'est une muse.
Essayez de rester jeune quand même. Pierre Demoux, au-delà du kiff, il peut y avoir un vrai intérêt économique à collectionner des baskets en 2025?
Il y en a un, effectivement, puisque, comme vous le disiez, les collectionneurs sont devenus une telle population, il y a une telle demande, notamment sur les modèles en édition limitée, qu'il y a de la revente derrière. Et qui dit revente, dit potentielle spéculation. Et donc, voilà, il y a vraiment un intérêt économique pour certains.
Mais comment on s'y retrouve? Est-ce qu'il y a une sorte de cotation? Est-ce qu'il y a une bourse des baskets?
Alors il y a déjà la culture, c'est-à-dire que les collectionneurs savent déjà eux-mêmes qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui peut avoir
du potentiel. Attendez, quand vous devenez collectionneur, si demain je veux me lancer dans une collection, ben, je pars de zéro, donc il y a un site de référence, il y a des...
Et effectivement, il existe des sites qui permettent de voir la cote en temps réel. Le plus connu d'entre eux s'appelle StockX, c'est un site américain où vous voyez en fait les cotes évoluer au jour le jour en fonction de l'offre, de la demande, et vous pouvez déposer des enchères pour acheter les modèles qui vous plaisent.
C'est comme un Argus de la basket, c'est ça?
C'est plus le CAC 40 que l'Argus.
Ah, okay.
C'est
que
vous pouvez acheter des modèles en vous disant voilà, ce modèle-là me plaît, je vais faire une enchère à tant alors qu'il vaut tant. Et potentiellement, en essayant de le revendre peut-être derrière si vous voulez être vraiment un spéculateur ou le garder pour vous, pour votre collection personnelle.
Mais quand on dit édition illimitée, j'ai l'impression qu'on entend ça partout maintenant. Ça veut dire quoi, une édition limitée? Il y en a, c'est 30, il y en a, c'est 200. Enfin, je suppose que...
C'est très variable et la valeur, justement, dépend aussi de la rareté. Il y a des modèles qui sont en quelques dizaines d'exemplaires. Et évidemment, ceux-là s'arrachent et valent une fortune. D'autres qui sont en dizaines de milliers, voire en millions, mais qui sont finalement assez petites, enfin c'est des assez petites quantités à l'échelle du monde. Il y en a quelques-uns en France, quelques-uns aux États-Unis, etc.
Mais par exemple, les Homer Simpson là, que vous portez, c'est une édition limitée. Une mais édition... il y en a quand même énormément.
Exactement.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom sur les sneakerheads, les fans de basket qui n'hésitent pas à les collectionner. Le journaliste Pierre Demoux est toujours avec nous cet après-midi autour de l'auteur de l'Odyssée des sneakers aux éditions Latango. Pierre, qu'est-ce que recherchent les collectionneurs? Ils recherchent la rareté, j'imagine, un côté historique aussi de certains modèles?
Oui, alors la rareté, c'est effectivement l'aspect numéro un, mais il y a aussi la valeur du modèle qui se définit à la fois par ce qu'il représente, qui l'incarne aussi, et qui l'a porté. C'est-à-dire que si une star mondiale la porte, forcément, ça a un peu plus d'impact que si c'est l'un d'entre nous, par exemple. Et puis, il y a toute l'histoire derrière chaque modèle, avec les designers, etc. Donc, il y a une vraie culture de l'amour de la basket chez les vrais collectionneurs qui peuvent déterminer, en fait, entre chaque modèle. Chaque modèle est composé d'une myriade de sous-modèles avec chaque spécificité. Oui. Et donc, à chaque fois, il y en a qui valent plus que d'autres.
Vous dites un truc amusant dans le livre, il faut la boîte. Une paire de baskets sans la boîte d'origine, ça ne va pas. Il faut la boîte.
Alors, vous pouvez la vendre sans la boîte, mais ça aura moins de valeur. Voilà, parce que ça prouve son authenticité et puis aussi sa valeur originelle. Il n'a pas été sorti, il est toujours intact. Donc, c'est ce qui fait aussi sa valeur.
Quentin. C'est quoi le profil d'un sneakerhead? Est-ce que c'est un truc de mec? Est-ce que c'est un truc de geek?
Alors ça a longtemps été un truc de mec, effectivement, parce que pendant des années, pendant même des décennies, les femmes qui portaient des baskets, enfin c'était pas considéré comme une chaussure très féminine, justement. Ça a changé assez récemment, on va dire il y a une vingtaine d'années, où là, quand la mode s'est emparée du phénomène des baskets, elle a légitimé le fait que des femmes pouvaient être élégantes en basket. Et aujourd'hui, on en voit dans tous les défilés de haute couture, toutes les marques de luxe ont des baskets. Et donc, ça a étendu le champ de la culture sneakers aux femmes qui n'étaient pas exclues, parce qu'il y en avait qui en portaient, évidemment, mais qui étaient moins bien valorisées.
Est-ce que c'est pas aussi parce que la basket a changé? Avant, on parle beaucoup de Air Jordans, etc., qui sont quand même des grosses baskets. Là, maintenant, je sais pas, on parle des Samba de Adidas, des Superstars, c'est quand même des plus petites baskets. Donc, peut-être que les femmes, du coup, sont plus à même d'en acheter?
Oui, mais ces modèles-là, ils existaient déjà à l'époque. Ouais, des modèles des années 60, 70, 80 qui sont réédités aujourd'hui, ce qui est une grosse vogue du vintage. Donc, c'est plus un changement culturel, sociétal, que vraiment des modèles eux-mêmes, j'ai l'impression.
Les sites comme Vinted, par exemple, ça aide?
Ça peut aider. Et puis aussi, alors il y a peut-être un aspect à souligner, c'est que les marques se sont mises à faire des pointures plus petites pour correspondre aussi aux pieds des femmes qui sont en général plus petits. Donc, ça a aussi contribué à l'essor du côté des femmes.
Vous dites que les collectionneurs créent de véritables petites entreprises, se construisant un carnet de fournisseurs pour s'approvisionner, payant des petites mains pour faire la queue à leur place, pendant qu'eux s'occupent des relations avec les acheteurs en ligne et empochent les bénéfices. C'est légal tout ça?
Alors c'est légal, alors tout le monde ne le fait pas, hein, évidemment. C'est quelques-uns qui sont vraiment spécialisés dans la revente, parce que comme on le disait, en fait, il y a tout un business de la revente de modèles en édition limitée. Donc l'intérêt, c'est d'aller récupérer cette édition limitée pour ensuite la revendre sur les sites où vous pouvez faire une bascule x2, x10, x 100 parfois sur les modèles les plus.
x 100. Voilà. C'est quoi la basket la plus chère du monde?
Alors la basket la plus chère du monde, enfin celle qui a été vendue aux enchères, là pour le coup c'est vraiment une chaussure que vous ne pouviez pas trouver ailleurs que dans une maison de vente aux enchères, c'est les Air Jordan portées par Michael Jordan.
Ah oui,
voilà.
Ah oui.
Pendant la finale de 1998.
Ah oui.
À 2,2 millions de dollars.
2,2 millions.
Un peu cher, Mathieu.
Ah oui. 1,1 million la chaussure. Quentin.
Je me souviens aussi de la basket. Très vite. Moins drôle, mais la basket Trump. Qu'on avait vu dans la presse, tout doré, tout en or, qui valait cher. La basket, ça peut aussi être politique?
Ça peut l'être. Il y a Michael Jordan qui a sorti une phrase célèbre sur ce thème, parce que lui était vraiment l'égérie des baskets. Il disait les républicains achètent aussi des baskets, quand on lui demandait pourquoi ils ne s'engagent pas plus du côté des démocrates. Donc ça peut devenir un objet politique, dans le sens où des hommes et des femmes politiques peuvent les utiliser pour promouvoir un message. Souvent pour essayer de faire jeune, dans le cas, ça marche pas forcément toujours. Il y a encore des endroits, des domaines où c'est pas encore très bien vu de porter des baskets, mais ça s'estompe de plus en plus. Et il est pas très loin le jour où on verra un Emmanuel Macron, par exemple, porter des baskets au G20 ou...
Ça, c'est la dernière étape de sa communication. Il attend encore un petit peu, puis c'est la dernière carte qu'il abattra. Il viendra avec des baskets. Alors lui, c'est un être incroyable. C'est la mémoire des baskets, l'autre mémoire à Paris, puisqu'il se souvient des Reebok Pump, alors qu'il n'était même pas né. C'était en 89 que j'ai mis.
Le fait de gonfler une
basket. Vous vous souvenez de quoi?
Je sais pas, je l'ai vu.
Il y en a eu jusqu'en 94, après, il n'y en avait plus.
J'étais né.
C'est très bizarre, Quentin. C'est très bizarre. Je pense parfois vous mentez. À mon avis, c'est ça le secret. Quentin, est-ce que vous avez croisé dans la rue beaucoup de sneakerheads?
C'est vrai que si on observe bien, on peut repérer de loin les amoureux de la skateba, comme on dit. Essayons avec Pascal et sa femme. Le coupe vent beige noué autour de la taille, la chemise à carreaux Vichy.
Sneaker head. Une tête de serpent.
Les sneakers, quand on dit sneakers,
C'est un truc à manger, une barre de céréales.
De quoi?
Une barre de céréales, un genre de Mars ou...
Oui, une barre chocolatée, bien sûr. Je leur explique le phénomène de la basket.
Ah oui, les sneakers, oui, les chaussures, les baskets, les tennis, les... Maintenant, tout le monde s'habille en sneakers.
Vous avez des baskets?
Et même les adultes. J'ai des New Balance aussi. Oui.
Et vous, c'est que les chaussures de rando?
Ouais, j'ai pris ça pour faire des longues marches en ville.
Ça, c'est des chaussures de marcheur.
Ouais, des chaussures de marcheur, ouais.
Elles sont belles?
Les couleurs, c'est banal, c'est marron.
Ouais, c'est marron, mais c'est sympa. Manuela s'apprête, elle, à prendre un taxi. Sous la visière de sa casquette rouge, je vois ses yeux découvrir...
Sneakerhead. Ok, je vois. Je pense que c'est un peu la culture street, le fait d'avoir aussi le dernier modèle, enfin, suivre la tendance. C'est comme l'iPhone, j'ai le dernier iPhone, j'ai les derniers Adidas qui sont sortis, la collaboration avec. C'est un peu ça, et chacun a ses trucs. Quoi.
La street culture, les collabs pour créer des éditions limitées, on en parlait, et au bout du compte, le besoin d'avoir au pied un objet rare. Bastien flâne dans la rue, jogging, survêt, il est plein d'énergie.
Sneakerhead.
Est-ce que vous connaissez le mot?
Oui, c'est quelqu'un qui est passionné de chaussures, et qui aime acheter des chaussures tout le temps, et qui en fait plus qu'un outil vestimentaire, qui en fait pas une passion, mais je dirais plus une...
Une façon de vivre.
Exactement, merci.
Je vois bien que pour lui, le sujet est très sérieux. Les choses, on ne plaisante pas avec, c'est un truc important.
Bien évidemment, c'est un signe extérieur de richesse. Donc c'est quelque chose qui va te différencier ou te faire appartenir à une classe sociale ou à une communauté. Tu peux très bien mentir avec une belle chaussure. Mais c'est pour ça qu'il y a des fausses. Enfin, aujourd'hui, surtout dans notre génération, parce que nous on a 18 ans, c'est un truc qui est super important. Mais quand on était au collège... Et même un peu au lycée, c'était super important d'avoir de belles chaussures, pas les avoir tout le temps les mêmes. Et il y avait ces sneakerheads qui avaient plein de paires à 300, 400, 600 euros. Et donc oui, c'est un truc important aujourd'hui, je trouve, dans notre société.
Alors que je regarde fixement les baskets qu'il porte, il reprend la parole.
Donc je vais vous décrire aujourd'hui ma basket, une Prada American Skep. C'est un nouveau truc qui a grandi aussi. Les maisons de luxe se sont mis à faire des baskets et se sont mis un peu dans la tendance pour toucher un autre public. Ouais. Et je suis malheureusement victime de ce coup commercial.
Combien elles valent celles-ci?
Cher.
Tu peux nous dire combien tu les as payées?
720 euros en boutique.
Vas-y, on la décrit. Parce que là, 720...
On la décrit. Alors, ça va être un peu décevant. Hein. Parce qu'elle est blanche et bleue. Elle ressemble à une paire de bowling, je vous jure que c'est vrai. Vous allez m'insulter, mais je vous jure qu'elle ressemble à une paire de bowling. Donc, elle est un peu vernie. Et puis surtout, c'est une paire que je trouve super jolie. Et surtout que je vois pas au pied de tout le monde.
Et oui, le signe distinctif, la rareté, le luxe. Il cite Prada, mais on pourrait citer Balenciaga, Dior, Louis V. Voilà les ingrédients pour vendre à des jeunes adultes de 18 ans une paire à plus de 700 euros. Mais le truc important, et on en a parlé, c'est le recel, la revente. Le fait d'acheter une paire pour la revendre et faire un bénéfice derrière. Il a un souvenir à nous raconter.
Le drop Cortez. En gros, il y a une marque londonienne qui a collaboré avec Nike et qui ont fait une paire spéciale pour Paris. Ils ont fait un événement pour acheter la chaussure. Et le truc, c'est que la chaussure, tu pouvais l'acheter à, je crois, c'était 220 balles et tu la revendais 500 à la sortie. Et du coup, nous, on voulait absolument en avoir plusieurs, les revendre et tout. Et donc, on est allés tous, ils avaient donné une coordonnée GPS et on devait être 500 ou 600 devant. Il y a eu des malaises, des bagarres, des trucs. On s'est fait voler une paire, on en a volé une. Mais c'était génial. Ça se jetait des vélos dessus, mais j'ai adoré ce moment.
Mais vous avez une très belle petite paire, là. C'est quoi ça?
C'est des paraboots, ça.
C'est très sexy.
Ah mais monsieur, se fait pas chier. C'est un France Inter, ça appelle. Hein.
Oui, c'est un cadeau.
Oui. Voilà.
Un
cadeau enfin démasqué.
C'est un cadeau.
C'est lui qui porte des tarabouts. Je ne sais même pas ce que c'est que cette marque.
C'est un cadeau d'anniversaire. Quand on prend 33 ans, on se console comme on peut.
Alors, Pierre Demoux, 720 balles pour porter des chaussures de bowling. À un moment, ça dérape, les sneakerheads, là. On atteint des tarifs démentiels. Et surtout avec cette notion, ce phénomène du drop chez les jeunes qui se ruent à des ventes très privées, enfin confidentielles en tout cas, pour revendre juste derrière. C'est pas l'esprit sneakerhead originel, ça. C'est juste du business, quoi.
Effectivement, ça a un petit peu tué une partie de la culture sneakers. Et ceux qui ont un amour authentique, parce qu'il y en a, c'est la grande majorité, ceux qui ont une vraie passion pour les sneakers, se désolent un petit peu du fait que c'est de plus en plus difficile de mettre la main sur des modèles en édition limitée.
Mais du coup, ça devient élitiste, en fait, le monde des sneakers.
Alors, ça devient... Il y a des parades qui sont mises en place par les marques.
Comment ?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça se passe beaucoup sur Internet, enfin, sur des applications, pour éviter justement les débordements que vous évoquiez dans le micro-trottoir.
Dans des boutiques physiques.
Voilà, c'est ça. Donc, vous avez des applications avec des tirages au sort, qui s'appellent des raffles, où en fait, vous vous inscrivez en ligne, et si votre nom est tiré au sort, vous avez le droit de payer, d'acheter la chaussure. C'est une façon de contourner en fait les émeutes physiques.
Oui.
Et ça crée par contre des émeutes virtuelles, puisque évidemment beaucoup de déçus, beaucoup plus d'inscrits aussi.
Ah oui. Plus déçu encore.
Les Quentin. Retraités aussi portent des baskets. Ah, ils disent le mot tennis. Ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ça.
Oui,
on porte des tennis. Mais ils parlent des New Balance. Ils parlent aussi des chaussures pour aller marcher. Le côté pratique de la chaussure. C'est devenu quand même intergénérationnel.
C'est ça qui est intéressant, c'est de voir à quel point les sneakers sont devenus vraiment un objet du quotidien pour toutes les générations, hommes, femmes confondus, classe sociale confondue également, parce que effectivement c'est pratique, c'est confortable puisqu'elles sont pensées au départ pour la pratique du sport, donc elles sont confortables à porter au quotidien.
Alors ça, on va en parler parce que les Converse, j'ai jamais trouvé que c'était particulièrement pratique.
Et pourtant, les basketteurs jusque dans les années 70 portaient en NBA des Converse All-Star pour jouer.
Mais quelle marque se démarque le plus aujourd'hui ? On parle beaucoup de Nike, mais c'est vraiment Nike qui a le suprême de la sneaker.
C'est le numéro un mondial de très loin des sneakers. C'est la marque qui pèse le plus. C'est la marque qui joue le plus aussi sur le côté édition limitée. C'est celle qui est vraiment à instiller les codes qui sont aujourd'hui reprises par toutes les autres marques, avec beaucoup de collaborations exceptionnelles, pour essayer de mixer en fait les publics, pour essayer d'attirer des publics différents de ceux des sneakers classiques.
Ils ont qui par exemple, ils font avec qui des collabs Nike ?
Alors aujourd'hui, la personne qui marche le plus chez eux, c'est Travis Scott, qui est un rappeur américain, qui aujourd'hui c'est la personne qui vend le plus peut-être de chaussures récentes. Même si Michael Jordan reste le vendeur indétrônable du sneaker game. Mais voilà, il y a à chaque fois des recherches d'influenceurs pour essayer de trouver des collabs, entre marques aussi, et puis avec des univers très variés, comme les mangas, comme les jeux vidéo, pour à chaque fois créer une histoire sur chaque paire de baskets et susciter de l'intérêt.
France Inter, Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Pour ce quiz spécial histoire des sneakers, j'aurais pu vous proposer de gagner mes fameuses Reebok Pump de quand j'étais en CE2. En plus, comme à l'époque, je faisais du 37, c'était parfait pour Quentin. Hélas, elles ont été perdues en 96 dans un déménagement. Le regret d'une vie. Jouons donc pour du beurre, comme d'habitude, quoi, au Zoom Zoom Test. Une fois n'est pas coutume, pas d'intro interminable aujourd'hui, soit la volonté d'aller à l'essentiel, soit le fait que mon auteur Gérald Darnaud a dû aller récupérer sa vieille polo qui avait été emportée par la fourrière pendant qu'il était à New York. Bref, commençons en musique, histoire vraie. Nous sommes en 1986 et un groupe de rap new-yorkais qui voue un véritable culte aux Adidas Superstar, au point de leur dédier leur titre My Adidas, qu'on vient d'écouter, va signer un deal $1 million avec la marque aux trois bandes, ouvrant la voie à toutes les collabs entre Rasta du hip-hop et sportswear. S'agit-il de Grandmaster Flash, les Beastie Boys ou Run DMC?
C, Run DMC.
Alors là, c'était une question piège évidemment, et on voit tout de suite qui dans cette équipe écoute Cyril Lacarrière attentivement. Et c'est le cas de Manon Mariani qui n'a pas hésité. Alors que Quentin, où était-il pendant le Doux Assort?
Comme d'habitude.
Oui, très loin.
Vous
très
l'avez
loin
mise
de votre
en introduction aussi, Mathieu?
Non, c'est juste Cyril qui l'a mise. C'était le Doux Assort. Coup de génie du tour manager de Run DMC, alors au sommet de sa gloire, qui invite un des représentants de la marque Adidas à un concert au Madison Square Garden. Au début, le représentant, il n'est pas emballé, mais au moment de jouer My Adidas, le public brandit ses superstars. Le gars du marketing réalise l'impact potentiel du hip-hop sur son business. Coup de foot marketing qui n'a pas eu lieu lorsqu'un commercial de chez Veja avait assisté au showcase d'Intérieur Nuit à l'espace Leclerc Multimédia d'Alençon. En parlant de Veja, Notre réalisateur, Égérie Pied Birkenstock, rappelons-le, Ghislain Fontana, a voulu s'en procurer une paire lors de son dernier séjour au Brésil. Un stage en immersion chez les Awawa, une tribu amazonienne de chasseurs-cueilleurs, une semaine à bouffer des baies sauvages et à boire leur fameuse tisane chamanique au jus d'ancêtre. Toujours est-il que Ghislain est reparti bredouille. Il n'a pas trouvé de Veja, sa marque fétiche, pourtant fabriquée au Brésil. Et pourquoi ? Parce que Bolsonaro a surtaxé les marques préférées de ses salwokistes. Parce que Veja veut dire « fils d'up » en argot brésilien. Ou parce que la marque était déjà déposée.
Ah.
C'est.
Quentin, vous avez pris le temps de la réflexion pour une fois.
Ça paye.
Et ça a été payant. Réponse C, effectivement. Produire des pompes au Brésil et ne pas pouvoir les vendre comme ça là-bas, c'est ballot. Veja s'appelle donc Vert au Brésil. Mais revenons en France. Comme dirait Cyril, on y est si bien. Manon, Quentin...
C'était vraiment les explications les plus succinctes.
Et ben, compris.
Oui, ben, je vous dis, Gérald, il avait cette histoire de polo qui était à la fourrière. C'était pas facile
Veja
pour Gérald.
Veja s'appelle donc Vert au Brésil, voilà.
Oui, bon, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas les vendre.
Ben, le nom Veja était déjà pris au Brésil. Mais c'est pas possible.
Mais du coup, sur les chaussures, il y a quand même marqué Veja. Du coup, il y a marqué quoi?
Il y a écrit Vert sur les chaussures, là-bas, pour les chaussures qui sont pour le Brésil. Mais vous êtes...
C'est mal expliqué.
C'est fou.
Il y avait une marque qui s'appelait Vert.
Non, c'est... Il est bête.
Revenons donc en France. Manon Quentin, comme à peu près 160% des bobos urbains du monde entier, vous avez sûrement déjà acheté des Stan Smith avec la certitude insolente d'être à la pointe de la mode.
Jamais.
Mais savez-vous qu'en portant des Stan Smith, vous avez enfilé un morceau d'histoire? À vous de deviner pourquoi. C'est la première chaussure avec des trous de ventilation. C'est la première chaussure de tennis en cuir. Ou c'est la première chaussure portant un nom de sportif?
Les trois.
B et
C.
A et B peut-être alors.
Ah, c'était malin ça, Manon. Et pourtant, Agnette.
A et B.
Vous dites quoi, vous?
B et C.
C'est une très bonne. Vous êtes complètement dans les choux. Ce n'était que la réponse B. Oh. La Stan Smith est effectivement la première chaussure de tennis en cuir, mais pas la première sneaker associée à un nom de sportif. Car ça, c'était la quoi? La Converse All-Star Chuck Taylor? La Adidas Rod Laver? Ou la Mephisto Cyril Lacarrière?
B.
A.
Pour vous, c'est la Rod Laver pour vous?
Ouais.
C'est la Chuck Taylor?
Ouais.
La Converse?
Ouais.
Dont on parlait tout à l'heure, c'est une bonne réponse de Quentin, lui. Ah, ça nous rajeunit pas, enfin surtout Cyril, qui avait déjà son bac à l'époque. Nous sommes en 1922, et Chuck Taylor lance la première Converse approuvée par Chuck Taylor, et là vous vous dites, comme moi d'ailleurs, avant de me renseigner pour ce quiz, mais ce Chuck Taylor devait être un génie du basket, le roi des parquets, le LeBron James de l'époque. Non, non, c'était juste un basketteur très moyen, semi-professionnel, mais juste avec un gros sens du business.
Ah ouais.
Restons aux États-Unis. On y est si bien depuis que Trump y a été réélu, dirait Cyril. Les États-Unis et plus précisément Beaverton, le siège de Nike. Saurez-vous, Manon, Quentin, me dire à quoi fait référence la célèbre marque à la virgule? À rien, c'était juste facile à prononcer dans toutes les langues. Ça signifie No Island Kayak Entertainment. Ou c'est une référence à Nike, la déesse grecque de la victoire.
C'est.
Ouais, c'est.
C'est allé très vite et c'est allé encore plus vite du côté de Manon. Si Nike s'appelle Nike, c'est en référence à Nike, la déesse de la victoire, celle pour qui Cyril avait sacrifié un agneau pour porter chance à Fillon au premier tour 2017. La pauvre bête était morte en vain. Et figurez-vous, comme c'est le gai savoir ne s'arrête jamais, qu'avant de s'appeler Nike, la marque devait s'appeler Dimension 6, un nom bien pourri proposé par son fondateur Phil Knight. Heureusement, le designer de l'époque, Jeff Johnson, s'était interposé pour dire « on va plutôt appeler ça Nike, non c'est mieux ». Enfin, pour vous départager, saurez-vous me dire pourquoi la concurrence entre Adidas et Puma a toujours une saveur particulière? Parce que les deux marques ont été fondées par deux frères qui se sont engueulés? Parce qu'Adidas s'est lancé en copiant des modèles Puma? Ou parce que c'était qu'une seule marque au départ, Puma-Adidas, scindée suite au divorce du couple fondateur?
C'est une histoire de divorce.
Ça me dit un truc. Pour vous, Manon, c'est les frères.
C'est
les frères.
Vous l'avez lu.
Vous l'avez lu. Bravo, Manon. Les frères Adolf et Rudolf fondent la fabrique de chaussures Dassler en 1918. Mais voilà, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, Adi étant fan d'Hitler et Rudolf un peu moins, leur chemin se sépare. Rudolf part fonder Puma, pendant qu'Adolf garde la boîte qu'il appelle Adi, c'est son surnom, et Das comme Dassler. Voilà, maintenant, vous connaissez le passé nazi d'Adidas. Manon, montrez-moi ce que vous avez au pied. Bon, voyons voir. Montrez-le.
Bah oui.
Vous montrez?
Oui, bah des Adidas.
Victoire donc de Quentin, lui.
Oui.
Effectivement.
Ça a été racheté par Tapi à un moment donné, ça s'est très bien passé.
Vous avez quoi au pied, Quentin?
Moi, j'ai des Vans.
Ah oui.
Ah, encore une autre marque. Je crois que toutes les marques ont été citées. Si on ne reçoit pas, mais des colis.
C'est
des montagnes de colis.
37,5 en Nike, perso.
Et l'adresse, 116 avenue.
44,5 en ce qui me concerne, c'est important. La folie des collectionneurs de baskets au menu de Zoom Zoom cet après-midi avec l'un des meilleurs spécialistes du business des baskets, le journaliste Pierre Demoux, qui a écrit L'Odyssée des sneakers, comment les baskets ont marché Pierre-Olivier sur le monde aux éditions La Tango. Pierre, on peut faire fortune dans la collection de sneakers ou ça reste un hobby?
Alors certains qui se débrouillent très bien peuvent faire fortune, mais comme dans toutes les ruées vers l'or, ceux qui font fortune, c'est ceux qui vendent les pelles, et en l'occurrence ceux qui ont créé les sites de revente.
Ah,
donc
oui.
Le fondateur de StockX, par exemple.
Ah, lui, il est tranquille.
Lui, il est bien.
Et comment les marques, elles s'adaptent face à ce phénomène des collectionneurs? C'est vrai que ça change complètement un marché, finalement. Même pour toutes ces histoires de séries spéciales, ils sont poussés en permanence à sortir des séries spéciales, ou il ne faut pas en abuser non plus?
Justement, les marques, pendant un temps, se sont un peu désintéressées de ce marché-là,
ouais.
Puis ont vu qu'il y avait un intérêt, puisque les collectionneurs, comme la communauté grossissait, ça devenait un intérêt économique. Donc ils ont essayé de pousser au maximum les tendances et de créer le buzz à coup d'éditions spéciales. Et le problème, c'est que donc ça a vraiment explosé dans les années 2010-2015, jusqu'à atteindre des proportions énormes où il y a des sorties vraiment tous les jours pour toutes les marques, et ça devient difficile de suivre vraiment ce qui se passe. Mais le problème, c'est qu'à force de prendre les gens pour des pigeons, bah, ils s'en rendent compte. Et donc, il y a eu un peu une explosion de la bulle des sneakers il y a quelques années.
Il y a quelques années déjà.
Là, il y a 2 ans. Ouais. Donc là, ça a un petit peu redescendu.
Okay.
Mais voilà, ça reste un marché très florissant.
J'y connais pas grand-chose, mais on entendait tout à l'heure quelqu'un dans le micro-trottoir dire qu'il y a les marques de luxe qui se sont jetées dans les collaborations, enfin dans les sneakers tout court. Ils créent des sneakers. Est-ce que ça marche toujours autant, les baskets Dior, les baskets Prada, tout ça, c'est toujours aussi en vogue aujourd'hui?
Oui, ça marche bien. D'une part parce qu'ils ont créé Alors souvent, ils s'inspirent des modèles qui marchent chez les grandes marques de sport, qui restent un peu celles qui fixent la tendance, les Nike, Adidas, Puma, etc. Ils font des collaborations aussi, exclusives. Ils s'inspirent là aussi des recettes des grandes marques pour créer de l'événement, créer du buzz. Et puis, comme le disait un des interlocuteurs dans le micro-trottoir, en fait, c'est un moyen aussi d'exprimer un statut social et de se différencier en montrant à quel point on a les moyens d'acheter des baskets chères et belles.
Vous les trouvez belles, on va prendre une marque, mais les Balenciaga, par exemple, qui sont des grosses baskets, moi, que je trouve parfois un peu vulgaires. Vous les trouvez jolies, vous?
Alors, je ne les trouve pas belles à porter, mais je trouve que le geste artistique derrière est intéressant. Et c'est là où, en fait, quand on parlait de culture sneakers, c'est aussi ça, c'est de se dire, bon, on ne s'arrête pas seulement à l'esthétique, on essaie de comprendre ce qu'il y a derrière, quel est le discours que veut donner le créateur.
Mais alors, quel est le discours derrière une énorme basket Balenciaga qui ressemble à un vaisseau spatial?
Ou un fer à repasser?
L'accusation, moi j'aurais dit vaisseau spatial, parce qu'on ne sait jamais. Il faut être ami avec tout le monde. Vous trouvez ça, qu'est-ce que vous pensez? Quel est le geste artistique derrière ça?
Alors, pour être très honnête, je ne connais pas exactement ce qu'a voulu exprimer Demna Gvasalia, qui est le créateur, mais qui est vraiment un habitué des coups d'éclat, que ce soit sur les chaussures ou sur les vêtements chez Balenciaga. C'est de montrer aussi à quel point la forme peut parfois primer sur le dessus. On a l'impression que c'est des baskets qui sont faites pour courir, alors qu'en fait, c'est des parpaings, donc vous ne pouvez absolument rien faire avec. Mais voilà, c'est aussi une façon de montrer à quel point les codes de la société de consommation ça s'impose à tout le monde.
Mais non.
Kanye West, avec ses Yeezy qu'il a fait avec Adidas, il a lancé une mode. Bon, il s'en morde les doigts maintenant, je suppose, mais il a quand même lancé quelque chose.
Oui, pendant une dizaine d'années, ça a été la personne la plus influente du monde des sneakers avec Adidas. D'abord chez d'autres, il a d'abord commencé chez Nike, il a travaillé aussi avec Dior, avec d'autres, etc. Il a relancé d'une certaine façon Adidas en apportant son côté cool et puis son côté créatif aussi. Et c'est là où on voit que, à nouveau, je suis en boucle là-dessus, mais pour dire qu'il y a une culture derrière. Ce qui séduisait chez les baskets de Kanye West, c'est à la fois l'esthétique et puis aussi ce que lui exprimait, ce personnage qui complètement hors norme.
Mais
c'est ça aussi qui séduisait les acheteurs.
Aujourd'hui, avec le downfall, pour parler en bon français, de Kanye West, est-ce que la valeur monétaire de ces Yeezy qui sont toujours en circulation, est-ce qu'elle a baissé ou est-ce qu'au contraire, elle prend de la valeur parce que jusqu'à le côté sulfureux du personnage?
Vous pouvez faire le pari, vous pouvez en acheter aujourd'hui et puis vous dire dans quelques années, on verra si jamais Kanye West remonte la pente, peut-être que ça vaudra une fortune. Adidas a été obligé de vendre en faisant aucun bénéfice tous les stocks qu'il leur restait avoir divorcé avec Kanye West. Donc il y a une partie qui est très très bien vendue. Là, pendant 2 ans, ils ont vendu tous leurs stocks et tout est parti. Il n'en reste plus une paire chez eux. Certains se sont dit effectivement, ça va reprendre de la valeur parce qu'il y a un côté historique. D'autres parce que ça reste des fans du chanteur, et, malgré ses nombreux dérapages. Ce sont des paris.
Ce sont des paris que, personnellement, je ne prendrai
oui,
pas.
Ça a vous toujours été pas beau, de toute façon, les Yeezy.
Vous c'est votre avis,
oui, mais oui,
vous avez raison de le partager avec l'auditeur,
parce
que cette émission, on est très prescripteur ici, vous savez. Vous écoutez France Inter, et je ne sais pas quelle heure il est. Pour moi, le temps s'est arrêté le 14 novembre 1989, la première fois que j'ai gonflé mes Reebok Pump. Maintenant, l'heure de découvrir la personne à suivre.
Je vous présente Léna Vivas. Elle a 26 ans, elle est française et c'est une sneakerhead star de TikTok.
On n'a pas beaucoup entendu parler de cette paire et je trouve ça très dommage car je pense qu'elle mérite carrément une vidéo. Elle est incroyable, elle est magnifique.
Avec sa frange noire, son franc-parler, ses looks de garçon manqué et surtout son mur de 200 sneakers impressionnant chez elle, Léna Vivas a réussi à percer sur la plateforme chinoise où elle est à l'heure actuelle l'une des personnalités françaises les plus suivies au monde avec plus de 8 millions d'abonnés. Originaire de Bordeaux, elle a commencé il y a 5 ans en faisant donc des vidéos essentiellement sur les sneakers, sa passion. Elle se présente comme une vraie collectionneuse et présente ses paires fétiches, le plus souvent des Nike. La sauce prend, une femme qui part de sneakers est encore assez rare et elle commence à être très très suivie. En 2022, elle est même la star d'un documentaire pour Brut centré sur l'univers des sneakers.
C'est considéré comme une œuvre d'art aujourd'hui.
Wow. Qu'est-ce que c'est laid ! Je n'aime pas du tout.
Maintenant, tu vois les gens au bureau ou ton dentiste ou autre qui portent ces sneakers.
Elle a aussi collaboré avec des marques comme Eleven Paris, avec qui elle a créé une capsule. Et puis, elle collabore aussi avec des plateformes spécialisées, on en a parlé tout à l'heure, de StockX, où elle partage ses sélections et ses recommandations en matière de sneakers. En quelques années, Léna Vivas a réussi à se faire une place de choix. Si bien qu'aujourd'hui, son contenu ne se réduit plus qu'aux sneakers. Elle est devenue une véritable influenceuse lifestyle, où elle partage ses passions pour les Pokémon et pour les jeux vidéo. Et puis, elle est aussi devenue maman d'un petit garçon, ce qui lui a permis de changer de ligne éditoriale. Elle a documenté sa vie de femme enceinte, mais aussi sa vie postpartum. Elle a notamment parlé de baby blues, de prise de poids, des réalités encore un peu taboues, mais que beaucoup de femmes vivent. Qu'une jeune influenceuse suivie par quasiment 10 millions de personnes le fasse, c'est plutôt cool, avec toujours ses sneakers dernier cri au pied. Sneakers qu'elle achète maintenant pour son petit garçon, évidemment. Ah oui. La relève est assurée.
Et c'est mignon, ça sert à rien, mais c'est mignon,
c'est
les tout petits
petit,
sneakers.
Oui, c'est
mignon.
C'est
Pierre Demoux, TikTok, ça donne encore une autre dimension aux sneakers aujourd'hui, ça relance encore la folie.
Oui, parce que les influenceurs ont un rôle crucial pour justement créer des tendances en termes de mode. Donc les marques ciblent justement des influenceurs qui vont pouvoir parler à des nouvelles audiences. Aujourd'hui, vous voyez très peu de pubs pour des baskets
oui, c'est vrai.
À la télévision, par exemple.
Ça sert à rien, en fait.
Ça sert pas à grand-chose. Ce qui compte, c'est de toucher vraiment le public là où il est, donc sur les réseaux sociaux principalement. Et puis par l'influence, en essayant de convaincre des stars de porter leur modèle et par le placement produit. Aussi. On sait que par exemple des séries comme Emily in Paris, derrière il y a des achats compulsifs des fans qui vont essayer de reproduire le style.
Il y avait eu ça avec Vans et Squid Game aussi.
Aussi, oui,
non
exactement.
Les ventes de Vans sont explosées
exactement,
après la série.
Ouais.
Et Nike est retour vers le futur aussi.
Voilà, alors là c'était un peu, ils avaient un peu anticipé, mais ils ont joué sur le côté nostalgie, justement pour créer les baskets qu'on voit dans le film Autolassante il y a quelques années.
France Inter. Zoom Zen, Mathieu Noël.
Forcément, lui, chez les frères maristes de Lourdes, il détonnait un peu. Des Jordan 6 sous une soutane, ça fait bizarre. Surtout que pour ses internes, le monastère avait un partenariat avec Scholl. Mais voilà, fallait toujours qu'il se fasse remarquer. Pierre Courade, chaque après-midi, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
Et aujourd'hui, on a parlé des sneakerheads, les amateurs de chaussures de sport. Rien à voir avec notre émission sur les kinks. Les sneakerheads sont des collectionneurs de sneakers, le nom que l'on donne au basket, au tennis dans les pays anglo-saxons. Les sneakers qui sont sortis depuis longtemps du seul cadre sportif pour être portés au quotidien, surtout par les non-sportifs, la preuve par l'exemple, les Air Jordan portés par Cyril Lacarrière, les sneakers deviennent un vrai objet de mode et donc de business. Les marques multiplient les séries limitées et les partenariats avec les célébrités pour faire émerger un nouveau marché de la basket d'exception. C'est toute cette histoire que nous a raconté notre invité, le journaliste aux Échos Pierre Demoux. Il nous a décrit des mécanismes dignes de la bourse avec cotation, spéculation, achat, vente. Le marché de la basket se dispute même sur une sorte de CAC 40, le StockX, le site de référence avec offre, demande, enchère et des prix qui varient selon la rareté, le design, mais aussi selon qui a porté la basket. Le Graal reste d'acquérir une paire d'exception dans sa boîte d'origine. La paire la plus chère de l'histoire, les Air Jordan, portées par Michael Jordan himself, vendues 2,5 millions de dollars. À titre de comparaison, c'est à peine plus que l'ensemble de la collection des sneakers portées par l'équipe de Zoom Zoom Zen.
Juste un tout petit peu plus. Merci Pierre. Et une question maintenant déterminante pour votre avenir dans cette émission. Pour la saison 4 éventuellement, la signature du contrat. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que Gigi Pop, ici présent, est le sosie blanc de Tony Parker?
Ah mais absolument.
Ah mais oui, vous êtes. Il sera là la saison prochaine, Gigi Pop. En tout cas, c'est.
Mais on l'a déjà dit, figurez-vous.
Bah, mais non. Évidemment, vous l'avez déjà dit. Il faut juste bien connaître Tony Parker.
Qui est déjà venu dans l'émission.
Oui, Tony Parker et qui reviendra, parce que c'est un ami.
Je vais mettre une photo pour regarder.
Gigi Pop, quand il a reçu le sujet de sa chronique, ça a ravivé de bien mauvais souvenirs. Gigi, vous avez une dent contre les sneakerheads.
Eh oui, salut, c'est Gigi, deux fois Gigi, ainsi que Guy, double Gigi, puis Guy. Quand je dis Guy, vous dites Guy, ok. Guy,
Guy,
comment je m'appelle Gigi. Voilà, c'est ma deuxième chronique dans l'émission. Et c'est une bonne nouvelle pour tous les collectionneurs de chroniques de Gigi. Ça commence à faire une sacrée collecte. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, on parle de collection et plus précisément de sneakerheads. Et ça tombe bien parce que c'est un sujet que je maîtrise. Voilà, donc c'est plutôt une chronique qui part du bon pied, si vous voyez ce que je veux dire. Hey, oh, oh. Ok. Alors déjà, je voudrais profiter de la tribune qui m'est impartie pour féliciter tous les fous du soulier, les zinzins de la semelle et les toqués de la godasse, grâce à qui le plein emploi existe chez les enfants du Bangladesh. Oh ah bah dis donc, qu'est-ce que j'entends là? Ça grince? C'est le parquet ou c'est ma chronique, la team? Bon. Je plaisante, calmez-vous, je suis pas là pour New Balancer. Oh allez, c'est un festival. J'imagine que tous les amateurs de jeux de mots prennent quoi déjà? Leurs pieds. Ok, merci. Du calme. C'est vrai que j'ai toujours trouvé ça intriguant de collectionner les baskets, car si on prend du recul, on peut se demander pourquoi? Ouais, parce que ça viendrait à l'esprit de personne de collectionner les espadrilles. Et pourtant, c'est le même principe, avec probablement moins d'amis, j'en conviens, parce que c'est difficile d'entamer la conversation. Tu fais quoi, toi? Ah oh, bah je collectionne les espadrilles. Bon, fin de l'échange en général. Et pourtant, j'ai moi-même bien connu une sneakerhead, puisque j'avais une ex, voilà, qui avait plein de baskets très rares, qu'elle gardait dans leur boîte, boîte si précieuse à ses yeux, que je n'avais même pas le droit de les toucher. Voilà. À l'instar de sa personne, car elle pouvait pas plaire. Et en plus, elle est partie avec un autre homme. Pour se lui fait les pieds à l'artiste. Bon. Collectionner les paires de baskets, c'est rare, mais permettez-moi aujourd'hui de rendre un hommage. Un hommage aux oubliés. Aujourd'hui, j'ai une pensée émue pour les baskets ordinaires. La paire de tous les jours, pas assez belle pour rester dans la boîte. La confortable, la quotidienne qui va avec tout. Celle qui se farcit les flaques de vomi du métro, la boue des festivals ou le jus de sol des fins de soirée en boîte. Souvent en contact intime avec un gros orteil qui dépasse mollement de la chaussette. Celle qu'on use jusqu'au trou dans la semelle. Le genre de chaussure qu'on retrouve seule, sur le bord du périph, pour aucune raison particulière. Celle qu'on enfile trop rapidement, comme des babouches en écrasant le talon pour descendre les poubelles. Et celle qu'on remplacera par une paire sensiblement identique. Celle pour lesquelles personne ne fera la remarque quand on ne l'aimait plus. Et celle qui nous quitte. Et celle qui nous quitte en claquant la porte pour aller baiser ailleurs. Oula, oula, non. Oula, non, attendez. Mais il nous parle encore de son ex, mais il nous casse les pieds, l'artiste. Ça suffit maintenant. Bon alors quoi, c'est le TGV 4387 à destination de Bordeaux, c'est Kiki Pop. Il est vraiment inarrêtable. Bon, tout ça pour vous dire. Bref, tout ça pour vous dire, les baskets c'est comme les amours, quand qu'on les collectionne ou qu'on n'y prête aucune attention particulière, l'essentiel, je vous le donne en mille Mathieu, c'est de trouver chaussures à son pied.
Ouais. Bravo, c'est vraiment Tony Parker mais en beaucoup plus drôle. Merci Gigi Pop et à très très vite dans Zoom Zoom Zen. Merci Pierre Demoux de nous avoir permis de comprendre la psychologie des fans de basket. Je rappelle votre livre référence sur le sujet, L'Odyssée des sneakers, comment les baskets ont marché sur le monde, aux éditions La Tango. Vous ne bougez pas, je regonfle mes pumps et on se retrouve juste après le journal de 17h en mode Zoom Zoom Back. Retour cette fois en 2010, Quentin pensait qu'il avait encore un avenir dans la musique, Manon qu'elle chantait juste, c'est dire si l'eau a coulé sous les ponts. On zoomera notamment sur un bus qui avait fait polémique cette année-là avec dedans des joueurs de foot qui refusent de descendre. Ça vous rappelle un truc?
Zoom Zoom Zen.